Vous êtes sur RTL.
Merci Agnès, il est 13h01, nous sommes donc avec Élodie.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Donc je rappelle que la mairie écologiste de Lyon impose donc un menu unique sans viande dans les cantines scolaires de la ville. Alors, il faut bien comprendre que ce menu unique, parce que Covid, donc on veut aller plus vite, fluidifier d'une certaine manière les files d'attente, donc on décide un menu unique. Et dans ce menu unique, il n'y a pas de viande, et c'est l'argumentation de la mairie écologiste de Lyon. Et Élodie nous dit qu'elle n'est pas forcément d'accord. Pourquoi ?
Alors bah déjà d'un point de vue professionnel, moi qui suis enseignante en éducation prioritaire, je sais que pour certains enfants et même pour de nombreux enfants là où je travaille, c'est déjà la seule occasion de manger de la viande, la cantine. Donc je trouverais ça dommage de priver des enfants de ça, sachant qu'on peut peut-être trouver d'autres solutions que de priver des enfants d'un morceau de viande. Et puis plus globalement aussi, hein, d'un point de vue personnel en tant que maman, moi je pense que la cantine c'est vraiment l'endroit qui doit montrer l'exemple d'un point de vue équilibre alimentaire. Et l'équilibre, c'est aussi la diversité. Donc voilà, je trouve ça dommage de se limiter à du poisson et des œufs, c'est très bien, certes, mais je pense que la diversité, c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
Alors effectivement, c'est intéressant d'écouter la mairie de Lyon, et c'est un courriel qui est daté du 15 février, qui est adressé aux élus d'arrondissement, et c'est l'adjointe chargée de l'éducation, Stéphanie Léger, qui a écrit ceci: menu unique sans viande pour pouvoir servir plus rapidement les élèves et fluidifier les repas. Et vous l'avez dit aussi, c'est pas un repas végétarien, puisqu'il y aura possibilité d'œufs et de poissons. Mais s'il y a un menu unique, forcément chaque jour, d'imposer de la viande à ceux peut-être qui n'aiment pas la viande, j'imagine que la mairie de Lyon, c'est ce dilemme qu'elle a dû trancher.
Mais peut-être que l'idée, c'est pas forcément d'imposer un menu unique, c'est que si on a besoin de fluidifier le repas ou que ça... que ça pose problème au niveau du timing, peut-être qu'on peut trouver d'autres solutions pour garantir toujours la diversité et le choix
bien
aux
sûr.
Enfants, pour qu'ils puissent correctement manger. Donc c'était une solution proposée, pourquoi pas, mais je pense pas que ce soit celle qu'il faille retenir, parce que ça va priver des enfants forcément de quelque chose. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous avez raison, si on met que de la viande, ça prive aussi ceux qui n'aiment pas la viande d'avoir un menu équilibré. Donc moi je pense qu'il faut aller chercher la solution ailleurs, quoi.
À moins qu'on ne considère que ces arguments n'existent pas, et c'est une manière de faire avancer la cause, et effectivement les écologistes, on sait que ce ne sont pas forcément ceux qui défendent le plus la viande, pour toutes les raisons qu'on connaît, et que c'est une manière d'imposer un menu sans viande. C'est ce que certains liront dans cette décision.
Encore une fois, moi je trouve ça dommage. Moi je suis très très sensible aux arguments écologiques, mais je pense qu'on doit quand même toujours avoir le choix, et que limiter la viande c'est extrêmement important pour l'écologie, oui, ça ne veut pas dire la supprimer totalement.
Encore merci une fois, Élodie, vous êtes prof dans le primaire, hein, je crois.
C'est ça, oui.
Eh bien, Fouad également est enseignant. Bonjour Fouad, qui habite Strasbourg.
Oui, bonjour.
Et dans le primaire également, me semble-t-il.
Oui, dans le primaire et également en zone d'éducation prioritaire, comme ma collègue qui a parlé précédemment.
Bon, il y a des menus à la cantine chez vous en ce moment ?
Oui, il y a des menus et il y a de la viande.
Bon, et est-ce que vous pensez qu'il faut servir plus vite, fluidifier plus vite, et est-ce que ça se justifie, ce qu'a décidé Lyon ?
Eh ben, moi, je pense oui, servir plus vite parce qu'on a justement pour éviter le brassage, je comprends. Le problème, c'est que servir plus vite, il n'y a aucun lien entre le fait de servir plus vite et ne pas servir de viande.
C'est-à-dire, si, c'est par le menu unique.
Difficile.
Comme il y a un menu unique, ça va plus vite.
Mais pas avoir un menu unique avec de la viande. C'est-à-dire, c'est très compliqué de ne pas avoir une arrière-pensée idéologique derrière ce qui a été dit. Parce que la problématique de la fluidité, elle existe dans toutes les mairies. Et c'est évidemment une mairie écologiste qui propose de ne pas mettre de viande. En fait, c'est justement une promotion... Alors, c'est pas végétarien, puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, il propose quand même du poisson, mais il y a quand même une volonté insidieuse un petit peu de défendre l'idée de repas sans viande à l'école. Et ça, je veux dire, essayer d'inclure des élèves dans des combats idéologiques, je trouve ça pour le moins pas répréhensible, mais un peu fort, mais un peu condamnable.
Donc vous ne croyez pas à la proposition de la mairie de Lyon, à la justification de la mairie ?
Ah non, absolument pas. On peut tout à fait faire un menu unique, mais avec de la viande. Et puis si les gens n'ont pas envie de manger de viande, ce sera plus facile pour eux de ne pas en manger. Je vais un peu reprendre les arguments qui ont été cités précédemment. Une cantine scolaire, c'est pas juste un endroit où on met les enfants entre midi et deux pour pouvoir aller bosser en toute quiétude. Une cantine, c'est aussi un endroit où les enfants peuvent avoir des repas qui sont équilibrés. Certains, c'est leur seul repas équilibré de la semaine. C'est aussi un endroit où finalement on fait de l'éducation à la nutrition. Donc je vois pas pourquoi on doit imposer justement cette espèce de dogmatisme du sans viande, d'un monde non sans viande.
Le nouveau protocole sanitaire impose une distanciation de 2 mètres dans la restauration scolaire. Le menu unique va nous permettre d'accélérer le service et ainsi nous permettre d'accueillir tous les enfants. C'est la mairie de Lyon donc qui communique sur ce thème. Il est 13h07, on va marquer une première pause et vous pouvez nous appeler sur tous les sujets du jour. Ils sont particulièrement nombreux. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Que reste-t-il de nos amours ? Que reste-t-il de ces beaux jours ?
Quelle est la plus jolie chanson de Charles Trenet, selon vous ?
Douce France.
De ma jeunesse. Douce Laurent France. Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, Douce France, c'est formidable.
Là, on entend Que reste-t-il de nos amours ? Eh bien, vous pouvez répondre à cette question et on donnera la réponse vers 14h15. Ce que nous dirons les
juste
auditeurs.
Juste avant le débrief.
Ouais, ça serait bien qu'il y ait un petit sondage. Pour vous, c'est Douce France. Je salue Boris Pirédou, qui est à la réalisation. Je ne sais pas s'il aime Charles Trenet. Bonjour Boris.
Ah. Il reste sans voix.
Il reste sans voix, Boris. Bon.
Laurent, vous pouvez continuer de nous appeler sur le sujet du jour. La mairie écologiste de Lyon va imposer un menu unique sans viande dans les cantines scolaires de la ville au nom de la lutte contre la Covid-19, une mesure qui démarrera dès la rentrée des vacances de février. Objectif, pouvoir servir plus rapidement et fluidifier les passages aux restaurants scolaires. Stéphanie Léger est l'adjointe chargée de l'éducation.
Aujourd'hui, il y a deux types de menus à Lyon, un menu avec viande et un menu sans viande. Et pour que tous les enfants puissent manger, effectivement, c'est le menu sans viande. On peut toucher tous les enfants et c'est pour ça qu'on a choisi celui-là.
Et pourquoi pas celui avec la viande ?
Bah parce qu'il y a des enfants qui ne mangent pas de viande.
La mairie précise que ce ne sera pas un menu végétarien. Du poisson et des œufs continueront d'être servis. Qu'en pensez-vous ? Du grand n'importe quoi pour Sylvie sur la page Facebook de l'émission. Beaucoup d'enfants mangent de la viande seulement à la cantine, c'est navrant. Elle est belle, la ville de la gastronomie française, rajoute Estelle. Linda, on est persuadée, la mairie écologiste de Lyon profite du contexte sanitaire pour faire passer ses idées. Une décision trop arbitraire, écrit Emma. Et après, Marie le rappelle, manger de la viande chaque jour n'est pas une obligation.
Non, mais il y a des gens aussi, des enfants qui n'aiment pas le poisson. C'est-à-dire que tu peux faire menu unique et une fois par semaine ou deux fois par semaine mettre de la viande. Je me demande si la mairie de Lyon ne nous prend pas pour des jambons
sur ce sujet-là.
Catherine, bonjour. Bonjour Catherine. Vous êtes directrice et enseignante dans le Val d'Oise.
Exactement.
Alors, votre réaction sur la décision de la mairie écologiste de Lyon ?
Mais écoutez, moi, ce que je sais, c'est que le protocole est de plus en plus lourd à l'école. Et alors, évidemment, je ne suis pas étonnée de voir des idées comme ça, un petit peu farfelues, un petit peu... On essaye des choses, parce que ça devient tellement lourd et tellement compliqué. Et évidemment, le temps de cantine s'allonge.
Oui, mais quel est le rapport avec la viande ?
Ben, je vous dis, c'est une idée un petit peu farfelue. Quel rapport.
Mais il n'y en a pas, en fait. La vérité, c'est qu'il n'y en a pas. C'est ça qui est rigolo.
Mais la mairie s'est dit, c'est que la mairie dit, mais
le plus grand nombre n'aime pas la viande. Voilà, bon, alors je sais pas, le plus grand nombre n'aime pas le poisson. Moi j'ai l'impression que les enfants, entre le poisson et la viande, il y a discussion. Hein. Je sais pas ce qu'ils aiment le plus ou pas.
Non, mais si on met du poisson, il n'y a pas de raison de ne pas mettre de viande à ce moment-là. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas la route. Ce qui est sûr, c'est que le protocole pour les communes sur le temps de midi à la cantine, c'est de plus en plus lourd et c'est de plus en plus un casse-tête. Ça, c'est vrai. Donc, moi, j'essaye de comprendre ça et de l'admettre, parce que je le vois tous les jours, c'est compliqué. La cantine, ça prend de plus en plus de temps. Parfois, ça déborde sur le temps scolaire. C'est-à-dire que les enfants ne reprennent pas les cours à 13h30 parce que ça prend trop de temps. Donc ça, quelque part, c'est pas normal. Le temps scolaire, c'est si la reprise de la classe, c'est 13h30. Il y a parfois des débordements parce que ça prend énormément de temps. Alors bon, bah là, il y a une mairie qui s'est dit, tiens, si on met pas de viande, ça va peut-être prendre moins de temps.
Oui, je répète, la mairie, elle s'est dit, si on fait un menu unique, on va prendre moins de temps. Et voilà, dans ce menu unique, il n'y aura pas de viande parce qu'on considère que la viande fait moins l'unanimité que le poisson. Si je voulais résumer.
On simplifie au minimum, quoi.
Vous qui êtes directrice et enseignante à l'école dans le Val d'Oise, vous avez plusieurs menus dans votre cantine ?
Non.
Il y a un menu unique aussi ?
Ah ben, oui, y a, la cantine traditionnelle, quoi. Enfin, nous, était enfant à l'école, Pascal, il y avait un menu unique.
Oui, mais d'accord. Pareil, donc là, il n'y a pas le choix. C'est-à-dire que l'enfant, il n'a pas le choix. Chaque jour, il n'y a pas deux. C'est pas un self
avec différents plats.
Ah ouais, vous êtes à l'ancienne, là, effectivement. Parce que souvent, c'est un self quand même. On peut choisir. Il y a deux plats proposés en plat de résistance.
Souvent, les selfs, c'est pour les enfants de l'école élémentaire. Hein. En maternelle, le self avec le plateau et tout ça, c'est trop compliqué pour les petits. Hein.
D'accord.
C'est trop difficile.
Donc là, tout le monde va à l'ancienne, à sa table, et puis il y a le chariot qui passe au milieu du réfectoire et on sert les enfants.
C'est à peu près ça. Sauf qu'avec le protocole, c'est très, très compliqué. Parce que les enfants, par exemple, doivent être séparés de 2 mètres par groupe de classe. C'est-à-dire que les enfants ne sont plus mélangés. Si, par exemple, au premier service, il y a les enfants de 2 classes, ils doivent être regroupés dans un coin du réfectoire entre enfants de même classe à 2 mètres de distance.
Oui, ce qui est effectivement pas simple.
Donc,
et les enfants sont masqués, évidemment, sauf au moment où ils déjeunent.
Alors, pas en maternelle, mais en élémentaire, oui.
Et ils enlèvent leur masque, évidemment, quand ils mangent.
Voilà. Donc, c'est un casse-tête pour les communes. Hein. C'est de pire en pire, c'est de plus en plus lourd, ça prend de plus en plus de temps. Il y a plusieurs services, parce que le temps que tous les enfants passent à la cantine, les cantines ne sont pas adaptées, les réfectoires ne sont pas adaptés pour que tout le monde mange en même temps à 2 mètres de distance. Donc, comme c'est de plus en plus lourd et de plus en plus un petit peu n'importe quoi quand même, le protocole, enfin moi je le pense, il y a des communes qui ont des idées un petit peu farfelues, un petit peu. On essaye des choses, on tente. Donc là, on tente ça. Ils vont peut-être se rendre compte que ça prend
pas sûr.
Autant de temps.
Parce que peut-être
il y a autre chose.
Parce que la mesure est pour l'heure temporaire et si la situation sanitaire le permet, la ville reviendra aux menus tels qu'on les connaît avec 2 menus sans viande par semaine après les vacances de Pâques, a communiqué la mairie de Lyon. Mais ça, c'est le genre de choses, parfois, on ne revient pas dessus.
C'est sûr.
Bon, merci Catherine.
Les parents d'élèves auront leur mot à dire et c'est des choses qui peuvent être discutées en conseil d'école.
Merci Catherine. Hervé est là, qui est apiculteur en Vendée. Bonjour Hervé.
Bonjour Monsieur Pro.
Vous allez bien ?
Très bien, très bien.
Quel est votre sentiment, votre avis sur ce sujet ?
Alors honnêtement, je pense que la mairie de Lyon a tout à fait raison, je dirais entre guillemets, de surfer sur cette problématique de temps, enfin de disponibilité, pour proposer un menu unique sans viande. Hein. Je pense que c'est l'occasion de montrer aux enfants qu'on peut très bien manger, faire un repas très très agréable sans manger de viande. Après, de là, le faire tous les jours de la semaine, peut-être pas. Je pense que je pense qu'on est dans une problématique aujourd'hui, hein, quand on prend la Terre dans son entièreté, hein, on sait qu'on est à peu près 7 milliards d'habitants, on sait qu'on va être 9 d'ici peu, hein, l'Afrique par exemple va doubler, et on sait que les terres arabes, hein, qui représentent un tout petit pourcentage en fait de la surface globale, je crois que c'est 4-5% de la surface totale de la Terre, donc les terres arabes sont plutôt en train de reculer, et on sait aussi que par exemple pour obtenir un kilo de viande de poulet, il faut 1,83 kg à peu près de céréales, pour un kilo de viande de dinde de porc, il en faut 2,3, et pour faire un kilo de bœuf, il en faut 8,5. Sachant que souvent, en plus, il faut complémenter en protéines d'origine végétale, hein, comme le soja, qui contient à peu près 30% de protéines, et le soja, on sait qu'il provient essentiellement du Brésil, et que c'est la forêt amazonienne qui en pâtit. Donc tout ça pour dire que consommer de la viande comme on en consommait autrefois, ce n'est pas forcément la solution, c'est pas une solution d'avenir. Donc faire en sorte que les enfants puissent, et les parents, hein, puissent s'habituer à l'idée de consommer moins de viande, je pense que c'est une bonne chose.
Oui.
Franchement,
ce qui est toujours étonnant, c'est que c'est important aussi la viande dans le développement d'un enfant. Les protéines, c'est important.
C'est ça. C'est pour ça que je...
Donc,
je
peut-être faut-il... Faut pas trop en manger, bien sûr. Mais ce qui me frappe toujours, c'est... Il y a une forme d'intolérance, parfois, qui existe, quand même. Et c'est vrai que cette mairie écologiste de Lyon, je vais pas lui faire de procès d'intention. Mais... Ça tombe encore chez les écologistes d'imposer à des enfants l'absence de viande chaque semaine durant cette période de Covid. Bon. Après, chacun pensera ce qu'il veut, mais convenez que c'est toujours étonnant d'imposer cela de cette manière aussi oui. brutale, avec une justification qui, au fond, n'est pas très efficace, disons-le.
Non, mais c'est vrai qu'ils pourraient mieux faire en termes de communication avec plus d'efficacité, plus de
franchise. C'est imposer ses idées, c'est-à-dire c'est imposer à l'autre ses idées. Ça s'appelle une forme d'intolérance et effectivement, ça tombe sur la mairie de Lyon qui est écologiste.
Ça s'entend. Après, ça ne masque pas le fait que de toute façon, on va vers une problématique de plus en plus prégnante de manque d'alimentation et on sait ce que donne des famines. Hein.
Il y en a moins qui arrivent à 30 ans, c'est ça aussi le paradoxe. C'est-à-dire qu'on vit de plus en plus vieux, la planète mange de mieux en mieux, sans doute. Les conditions, ce que je vous dis là, c'est des données objectives. On n'a jamais vécu aussi vieux qu'aujourd'hui, dans le monde entier. Et le niveau moyen n'a fait que monter. Donc, c'est le niveau moyen de vie et de capacité à mieux vivre sur la Terre qu'il ne l'était il y a sans doute un siècle.
C'est vrai, mais on sait que les Américains, par exemple, consomment à peu près 2,5 fois la quantité de calories dont ils ont besoin, alors que d'autres pays sous-développés, eux, en consomment plutôt 0,80. Donc, après que les pays surdéveloppés se serrent un peu la ceinture pour qu'il y ait un meilleur équilibre des ressources vers le monde, je pense que c'est positif. Après, je suis d'accord avec vous, imposer, c'est jamais payant, en fait. Imposer les choses, c'est toujours délicat. Je pense, je suis plus dans la communication, l'explication, la persuasion, avancer des arguments factuels, bien sûr, que d'imposer les choses. Mais cela dit, je pense que manger un peu moins de viande, de toute façon, c'est déjà le cas, comme j'expliquais tout à l'heure.
Bien sûr, la consommation de viande a beaucoup baissé. Hervé, merci beaucoup. Fabienne est là également. Donc, Fabienne, qui habite Paris, Visiblement, Fabienne est plutôt d'accord avec Hervé. Bonjour Fabienne.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Vous trouvez que c'est une bonne idée ?
Merci à vous. Alors, j'ai pas grand chose à ajouter puisque Hervé a tout dit. Donc, je pense que c'est une bonne idée. Alors, moi, je suis pas non plus pour imposer des choses. Je suis pas toujours d'accord avec la mairie de Lyon, ça c'est sûr. Par contre, Hervé a tout à fait raison. Il faut s'habituer à proposer aux enfants des repas équilibrés. Et ça, c'est une idée fausse de penser que la viande est nécessaire au développement de la
croissance. C'est pas une idée fausse, Fabienne, si vous me permettez. C'est une idée, pour le moins, qui est discutée. Parce que vous commencez à enlever la viande de toute l'alimentation d'un enfant entre 1 et 10 ans, certains disent, moi je ne suis pas médecin, mais qu'il peut exister des carences, je l'entends. Et notamment en protéines.
Alors, quand on parle d'un... D'ailleurs, il y a eu beaucoup de confusion tout à l'heure avec les menus végétaliens. Quand on parle de repas, de régime végétalien, c'est discutable. Par contre, de régime végétarien, si on mange des œufs, des laitages, ça, je n'ai jamais entendu que ça a été discuté. Mais il y a des cultures où les gens ne mangent pas de viande, quasiment. Donc, en tout cas, moi, ce que je voulais dire aussi, c'est que par rapport à... quand on enlève la viande, il n'y a plus de problème non plus de viande halal, de viande cachère. Moi, je suis végétarienne à ma table. Tout le monde peut s'asseoir, tout le monde peut manger. Il n'y a aucun problème de différence. Il n'y a aucun problème de... Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il y a une autre forme de facilité, c'est-à-dire que les repas végétariens conviennent à tous les enfants, quelle que soit leur culture et quelle que soit leur religion.
Je suis d'accord avec vous. Quand vous dites tout le monde peut s'asseoir à ma table, vous êtes végétarienne.
Je suis végétalienne.
Végétalienne ou végétarienne ?
Végétalienne.
Végétalienne.
Par contre, mon conjoint est argentin, donc pour tout vous dire, je ne suis pas une végétalienne intolérante. Parce que l'Argentine et la culture de la viande, c'est quand même... fait quand même très lié. Mais voilà, moi, quand je cuisine végétalien. J'étais végétarienne pendant des années. Tout le monde peut s'asseoir. Un musulman, un hindou, un juif, tout le monde mange à ma table. Il n'y a pas de problème de viande, comme je disais tout à l'heure. Et je pense que, voilà, dans les cantines, il y a eu ce problème-là aussi pendant des années. On a enlevé le porc, on a enlevé certaines viandes qui étaient discutées. Et voilà, dans les cantines, on aménage les repas depuis des années. Donc, pourquoi pas aménager des repas végétariens. Et moi, je pense aussi que dans les milieux défavorisés, les enfants vont plutôt manger de la viande et de la mauvaise viande. Par exemple, des plats préparés ou des McDo, des choses comme ça. Et moi, je pense que c'est plutôt une idée intelligente de leur apprendre à manger des légumes, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de manger chez eux.
C'est quoi le menu, par exemple, idéal? Qu'est-ce que vous allez dîner ce soir, Fabienne?
Ah, moi, je vais dîner ce soir. Je vais me faire une galette de légumineuses, donc soit des lentilles, soit des pois chiches. Je me fais ma soupe moi-même. Donc ce soir, c'est une soupe à la courge muscade. Et puis après, en général, je mange une compote. Voilà.
D'accord. C'est vrai que la suppression de viande dans l'alimentation nécessite quelques ajustements. C'est ce qu'on peut lire ici ou pas. Compenser la perte de protéines issues de la viande avec des protéines végétales, du poisson, des œufs, des produits laitiers. Alors après, il peut y avoir des carences en fer, carences en vitamine B12, carences en protéines.
La B12, ça c'est sûr.
C'est souvent ce qui est dit.
Par contre, la carence en fer, c'est absolument faux. Moi, j'ai aucun problème de.
Ça se traduit par une anémie entraînant fatigue, affaiblissement des défenses naturelles. Outre la viande rouge, on en trouve dans le soja, les lentilles, les haricots blancs. C'est toujours pareil. Peut-être qu'il faut
les
compenser.
Les haricots blancs sont très. Bien sûr, il faut compenser. Il ne faut pas s'arrêter de manger comme on mangeait avec de la viande. Il faut manger différemment. Je précise quand même que pour la première fois, une chef végane a été. Le guide Michelin a attribué une étoile à une chef végane, donc ça veut dire qu'on peut quand même bien manger, voire très bien manger, et il faut surtout revoir son alimentation, ça c'est certain.
Merci en tout cas. Merci pour votre témoignage. On va terminer peut-être par une petite chanson, cette séquence cantine que Boris Pirédou a trouvée dans la collection d'RTL.
Je préfère manger à la cantine.
C'est assez jeune comme chanson, comme vous le savez, mais bon, si vous nous écoutez...
Non, moi j'adore Carlos, c'est ma génération.
Exactement, si vous nous écoutez tous les jours, vous savez que globalement, notre playlist a dû s'arrêter en 80 ou 82. Voilà. Mais ça, c'est un vrai succès, hein.
Big bisous à tout le monde.
Ah, Fabienne, ça c'est rigolo. Big bisous à tout le monde, bien sûr. Et big bisous à Greg Caradoni, parce qu'il n'est pas là, l'ami Greg, aujourd'hui. Et Cyprien Sini non plus n'est pas là, je crois. Hein. Laurent Sini, d'habitude, il vient nous voir le vendredi, donc on n'aura peut-être pas de passage aujourd'hui dans le studio. On va marquer une pause et puis on va parler peut-être ou des vaccins politiques ou de Patrick Poivre d'Arvor. Une enquête a été ouverte contre lui. Si vous souhaitez donner votre avis, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie.
C'est vrai qu'il y a de la joie, enfin on essaye, il y a de la joie. Alors peut-être je vais vous citer sur Twitter, il y a un garçon qui s'appelle DJ Nital, visiblement il est en route avec sa maman, il dit « Ma daronne qui veut absolument écouter l'émission de Pascal Pro à la radio, il reste 4 heures de route, je vais probablement sauter ». Donc Madaron, ça me fait des génitales. Écoutez, c'est intéressant quand même ce que disent les auditeurs. Franchement, mais c'est moi peut-être qu'il aime pas. Il a le droit d'ailleurs.
C'est bizarre d'entendre dans votre voix Madaron.
Mais c'est lui qui dit Madaron. Madaron, c'est ma maman.
Oui, c'est ma maman.
Pourquoi on dit Daron? On sait d'où ça vient? Non.
Non, on peut essayer de.
Étymologiquement, faudrait demander à Muriel Gilbert. Bon, Laurent, dites-nous tout.
Vous pouvez nous appeler sur d'autres sujets. Faut-il permettre aux politiques qui nous gouvernent ou à ceux qui pourraient nous gouverner de se faire vacciner rapidement contre la Covid-19? C'est l'idée de Patrick Mignola, président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Pour l'élu, un président de la République, un Premier ministre, un président de l'Assemblée, un ancien chef d'État ne sont pas des personnalités comme les autres. Je ne serais pas choqué que Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen ou encore Yannick Jadot soient aussi vaccinés. Fin de citation. Alors, qu'en pensez-vous? Non, l'avis d'un ministre ou de n'importe quel élu ne vaut pas plus que celle d'un enseignant, d'un d'un routier, d'une mère au foyer, critique Michael. Cette idée vous choque, 32-10. Les personnes âgées et fragiles doivent-elles s'auto-isoler ? Des membres du conseil scientifique sont favorables à un contrat social entre générations. L'auto-isolement des plus âgés en retour, les plus jeunes générations accepteraient la contrainte des mesures de prévention comme les masques ou la distanciation physique. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a balayé l'idée hier.
La faisabilité d'une telle mesure, elle est très 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 discutable. La solidarité qu'elle emporte entre les générations l'est tout autant et l'impact épidémique n'est pas assuré.
Est-ce la meilleure solution pour que les plus jeunes retrouvent au plus vite une vie normale ? Eh bien, laissez les vieux, demande tranquillement Nadine sur la page Facebook de l'émission. Ce ne sont pas les retraités qui organisent des soirées. Et pour une fois, je suis d'accord avec Olivier Véran, observe Monique. Karine approuve ce donnant-donnant, que les plus âgés fassent un effort supplémentaire. Et vous, qu'en pensez-vous ? 32-10, 3-2-1-0.
On va parler de ces vaccins pour les hommes politiques et la justification de Patrick Mignola. Nous sommes avec Philippe, hein, qui habite Valenciennes. Bonjour. Est-ce que les politiques doivent avoir un passe-droit ? Bonjour, bonjour.
Bonjour Pascal, je dirais pas un passe-droit. Je dirais simplement, comme ils ont été élus, ils sont représentatifs de l'État. Et quand je mets politique, je ne vais pas nommer tout le monde, tous les représentants de l'Assemblée. Pour moi, les politiques, c'est le président de la République, le premier ministre et le gouvernement. C'est tout. Sont représentatifs du pays par rapport à leurs fonctions. Voilà. Et indépendamment de cela, pour moi, les prioritaires, c'est ceux qui sont, comme on dit, sur le front, c'est-à-dire les médecins, les infirmières, les aides-soignants, en priorité.
C'est parce qu'effectivement, ils sont également au contact du public dans l'exercice de leurs fonctions et que la continuité de l'État pourrait... obligé à ce qu'il soit vacciné. C'est ça l'idée,
c'est
en fait.
C'est exactement ça, ça va pas au-delà de ça.
Bah, écoutez, c'est intéressant. En plus, moi, j'ai l'impression que le public apprécierait aussi parce que ça rassurerait le public. Certains ont encore parfois des doutes, de moins en moins.
C'est un moyen de montrer l'exemple. Hein.
Exactement. Donc, Philippe, merci de cette remarque, de cette prise de parole. Arnould est là également. Bonjour Arnould.
Oui, bonjour Pascal.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Philippe ?
Alors, il y a de la joie, mais il y a de l'absurde aussi.
Oui,
je trouve, moi, personnellement, que c'est une proposition complètement absurde. Pour deux raisons. C'est que déjà, on voit déjà le fossé qu'il y a entre le peuple et leur politique. Il y a de plus en plus d'abstention à chaque élection. Et nombreux sont les débats sur votre antenne sur les pseudo-avantages que peuvent avoir les politiques ou que tous les politiciens ou politiciennes sont des magouilleurs, etc. Ça créditerait l'idée que les politiques ont des avantages que le citoyen lambda n'a pas. Moi, je pense qu'un politique, c'est un citoyen lambda. Il a certes été élu, mais je ne vois pas pourquoi il aurait des passe-droits par rapport à un tel.
C'est pas des passe-droits, mais dans l'exercice de ses fonctions, convenez, par exemple, qu'un homme politique rencontre sans doute plus de personnes que quelqu'un qui est dans son bureau. Déjà, fonctions professionnelles, dans ses activités professionnelles, il est au contact très souvent du peuple.
Bien sûr,
sur les marchés, ses administrés, c'est une manière aussi de rassurer toutes ces personnes-là qu'il rencontre.
Bah, convenez aussi, Pascal, qu'il y a beaucoup de métiers où vous avez des contacts. Moi, je suis commercial, je travaille, je rencontre beaucoup de gens. Mmh. Les chefs d'entreprise rencontrent tous leurs salariés. À quel niveau on mettrait la jauge de la personne qui voit le plus de monde par rapport aux autres ? Ce serait encore une usine à gaz. Moi, je pense qu'un politicien, un politique ou une politicienne, c'est un citoyen comme un autre. Et que ce ne serait pas montrer l'exemple que d'être vacciné.
Mais vous pensez que ce serait perçu comme un passe-droit ? Moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'il y a un peu de réticence, je le disais encore, sur le vaccin. Et ce serait une manière, au contraire, de rassurer, là aussi, la population.
Je ne suis pas sûr. Je pense qu'on voit un petit peu les mentalités évoluer sur le nombre de personnes qui veulent se faire vacciner. C'est vrai qu'il y a quelques mois, il y avait beaucoup de réticence. Il y en a quand même de moins en moins. Hein. Et je ne suis pas sûr que les politiques aient besoin de montrer l'exemple. Je pense que le citoyen est suffisamment mature pour savoir qu'il est nécessaire de se faire vacciner. Je ne suis pas sûr que parce qu'on va voir un ministre se faire vacciner à la télévision, ça va augmenter le nombre de personnes qui vont pouvoir se faire vacciner. Je pense que le peuple est assez mature pour savoir que la vaccination est essentielle. Alors il y aura toujours des réticences, bien sûr.
Patrick Mignola est président. du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Il a réagi, hein, c'est dans le Parisien ce matin. Il dit « Je sais toute la difficulté qui était celle du président Macron et de ses ministres pour dire qu'ils veulent être traités comme les autres. Mais franchement, on peut aussi se dire la vérité. Un président de la République, un premier ministre, un président de l'Assemblée, un ancien chef d'État ne sont pas des personnalités comme les autres. Il faut arrêter de céder à la démagogie dans l'égalitarisme. Bah, » c'est assez courageux de dire ça aujourd'hui. Mais oui, parce que moi, je suis plutôt d'accord avec lui, pour tout vous dire. Et c'est assez courageux de dire c'est pas un président de la République, c'est pas exactement un homme comme les autres. Quoi, ou plus exactement, c'est à la fois un homme parmi les autres, mais sa fonction n'est pas la même que celle des autres. Voilà, si on voulait assumer.
Bien sûr, non, mais vous avez tout à fait raison que c'est pas une personne comme une autre. Mais il y a plein de gens en France qui sont des personnes qui ne sont pas comme les autres. Un grand chef d'entreprise n'est pas une personne comme une autre. Il y a plein de fonctions autres que politiciens qui sont aussi des gens importants pour le pays économiquement, socialement, politiquement. Donc où on met la limite.
C'est pourquoi notre discussion existe. Alors en marge de cela, on a appris que l'ancien président de la République Nicolas Sarkozy, dont le suivi médical est assuré à l'hôpital militaire de Clamart, a été vacciné contre la Covid-19 sur prescription médicale, a déclaré son entourage. Et la dépêche que je vous lis est datée de ce jour et 13h08, donc il y a quelques minutes. L'Express avait écrit jeudi que Nicolas Sarkozy, qui vient de fêter ses 66 ans, avait eu la chance de pouvoir se faire vacciner dès le mois de janvier à l'hôpital militaire de Percy. Rappelant qu'actuellement, les moins de 75 ans ne sont pas concernés par la vaccination à l'exception des personnes atteintes de pathologies à risque. Eh bien, Nicolas Sarkozy a communiqué aujourd'hui que c'était sur prescription médicale, mais évidemment, comme tout à chacun, il a le droit au secret médical. Comme tout citoyen, on a le droit à une vie privée, au secret médical, est-il dit dans ce communiqué. Merci Arnould.
Merci, bonne journée.
Merci beaucoup. Majid est là, toujours sur ce même sujet, les vaccins pour les hommes politiques. Bonjour Majid.
Bonjour Pascal, bonjour à tous.
Et merci d'être avec nous, votre sentiment ?
Non, bah écoutez, moi je trouve que c'est quelque chose d'assez logique. Hein. Écoutez, oui, effectivement, les hommes politiques ne sont pas des personnes comme les autres, particulièrement les élus. Moi d'ailleurs, je n'ai pas envie d'avoir des responsables politiques qui soient des gens comme les autres, hein, parce que ça fait un peu peur. Et donc, je pense que c'est tout à fait normal qu'ils soient vaccinés, qu'ils se fassent vacciner. Je vois par exemple le maire de ma commune qui reçoit énormément de public, qui a un jour qui est entièrement destiné à recevoir ses administrés. Donc, je ne vois pas de mal à ce qu'ils soient vaccinés. Qui plus est, et ça donne effectivement, ça donne l'exemple. On a une espèce de réticence. Moi, je vois une grosse réticence autour de moi au niveau des vaccins, et le fait qu'ils soient vaccinés en priorité, c'est une manière de donner l'exemple. Sincèrement, je vois pas.
De rassurer. Vous avez parfaitement raison, hein, Majid. Et en fait, on peut l'interpréter de manière tout à fait différente. C'est pas tant un passe-droit qu'au contraire donner l'exemple.
Et si on se met au diapason de l'égalitarisme là, grimpant, on saura plus quoi faire. Alors au départ, quand le vaccin est sorti, on a entendu on est réticents qu'ils aillent se faire vacciner eux-mêmes d'abord et après on verra. Et aujourd'hui, maintenant qu'on annonce qu'ils pourraient se faire vacciner avant les autres, on nous dit non, nous d'abord, c'est pas juste. C'est-à-dire, si on commence à se mettre au diapason de ce genre de réaction, on n'a pas fini quoi. On fait rien.
Ben merci beaucoup. On m'a posé une question tout à l'heure avec Boris Spyridou. Quelle est votre chanson préférée de Charles Trenet ? Pour le moment, on a écouté, je crois, Il y a de la joie. On a écouté Que reste-t-il de nos amours ? Qu'est-ce qu'on a écouté encore, Boris ? Boris, il va nous mettre un disque de Trenet après la publicité, peut-être. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
On parlait de la Daronne tout à l'heure et figurez-vous que Dory Morel, oui. Sur Twitter, dit à la fin du XVIe siècle, le Daron était le maître de la maison, son épouse était donc nommée la Daronne, et tout ceci vient donc du vieux français.
Vous êtes le champion de l'info pour Brio Dîner.
Maudie Norel là, qui nous donne cela. Alors, je suis en train de parler sur Charles Trenet, qu'est-ce qu'on écoute ?
On écoute la mer.
Sans transition, Daronne, la mer.
Ça ne m'avait pas échappé. Et on a lancé un grand référendum. Quelle est la meilleure chanson de Charles Trenet selon vous, Laurent Tessier?
Nous vous attendons sur d'autres sujets au standard. 5000 personnes assises maximum pour les festivals d'été. Est-ce un moindre mal? Cette jauge est-elle trop faible pour vous? C'est mieux que rien, écrit Sylvie sur la page Facebook de l'émission. Ça me paraît trop compliqué, note Grégory. Appelez-nous pour réagir au 3210. Les comptes de la plupart des clubs de Ligue 1 ont été lourdement affectés par la crise sanitaire. Alors les joueurs de football doivent-ils baisser leur salaire? Le président de Lyon, Jean-Michel Aulas, a fait cette proposition à ses joueurs.
J'ai rencontré à nouveau les joueurs dernièrement et je leur ai proposé d'intervenir sur la réduction au-dessus d'un salaire minimum. La barre qui a été fixée est à 50 000 euros, donc c'est confortable et baisse significative de 25% au-dessus.
Est-ce normal selon vous? Les joueurs de foot doivent-ils faire cet effort pour protéger leur club? 32-10. Et puis il y a 20 ans, le 19 février 2001, Charles Trenet nous quittait.
Douce France, cher pays de mon enfant.
Une carrière de plus d'un demi-siècle, on le surnommait le fou chantant. Quelle est votre chanson préférée? Eh bien, appelez-nous au 3210-3210.
On aura la réponse vers 14h15. Une enquête judiciaire pour viol a été ouverte cette semaine contre Patrick Poivre d'Arvor. Une écrivaine l'accuse d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009. Dans un contexte d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir, PPDA a annoncé qu'il va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Et dans un communiqué de son avocat, il se dit révolté par la manière dont on cherche à l'instrumentaliser pour assurer la promotion d'un roman et ajoute ce sont des accusations mensongères. La justice a ouvert une enquête après ces accusations. Nous sommes avec Christine, bonjour.
Bonjour.
Qui habite le Val-de-Marne.
Oui, bonjour.
Bonjour Christine.
Vous m'entendez ?
Je vous entends très bien Christine et j'attends
Oui, alors moi j'interviens en fait parce qu'hier j'ai réagi déjà sur l'affaire Richard Berryhill, il y avait quelque chose sur Facebook. Ça devient insupportable. Comment les médias sont informés de ces choses-là? S'il y a des enquêtes, il y a des enquêtes. Comment se fait-il qu'on arrive à lapider des gens sur la place publique sans tenir compte de la présomption d'innocence? Là, on est en train de parler de M. Poivre d'Arvor. Moi, j'ai rien contre M. Poivre d'Arvor, comme je n'ai rien contre Richard Berry. Je pense que la question qui serait posée, c'est quel est l'intérêt d'étaler ça sur la place publique. À qui profite le crime?
Non, mais c'est une question
toutes
qui revient à chaque fois.
Toutes les femmes de ma génération se sont trouvées un jour abordées, maltraitées par des hommes, etc. Moi, j'ai plus de 60 ans. Il m'est arrivé d'aller au commissariat de police et dénoncer des faits qui me disent voilà. Pourquoi ces femmes réagissent dans l'affaire Berryhill 35 ans après les faits, d'accord, et dans l'affaire Poivre d'Arvor, plus de 10 ans après les faits. Elles ont eu 10 ans.
Christine, je vous coupe parce que la liaison n'est pas terrible. Vous êtes en kit main libre, vous êtes comment là?
Non, je suis pas en kit main libre.
Ah ben là, vous êtes mieux. Comment ça se fait que c'est mieux?
Bah, je ne sais pas pourquoi c'est mieux.
Ah ben là, c'est mieux.
Vous
quand je dis qu'on je vous entend mal,
vous
avez. Bah non, bon. Alors là, c'est mieux. Là, on vous entend bien. Donc que dites-vous?
Oui, ce que je vous disais, c'est que comment se fait-il que ces femmes arrivent 35 ans après?
Bah là, c'est pas 35 ans là,
10
c'est.
10 ans après.
Bah
dans
oui.
Dans l'affaire Berryhill, c'est 35 ans après. Dix ans après, moi je trouve ça quand même extrêmement étrange.
Bah alors,
et je voudrais savoir comment ça se fait que les médias acceptent de participer à ce genre de choses.
Alors ça, c'est y a plein.
Est-ce que ces femmes ont mis 35 ans à se rendre compte qu'il y avait eu un problème?
Bon,
pourquoi il n'y a pas eu d'intervention avant?
Mais
et s'il y a eu des
Christine,
interventions
vous en, pardonnez-moi, mais vous posez des questions, mais on peut vous répondre. Vous savez très bien.
Je vous laisse me répondre. Je suis
non, mais moi, je réponds. La mémoire traumatique. Tous les gens qui ont subi des agressions sexuelles majeures n'en parlent pas immédiatement. C'est un fait. Et il faut un temps, après le temps de sidération, notamment. Alors, toutes ces affaires ne se ressemblent pas. Dans les situations d'inceste, manifestement, un enfant, il ne parle pas tout de suite. Il ne parle pas à l'âge de 10 ans. Il sait pas, il comprend même pas ce qui lui arrive. Il est traumatisé. Donc, effectivement, il faut le temps. Et c'est ce qu'on appelle, paraît-il, la mémoire traumatique. Donc ça, c'est l'inceste. Et puis pour le viol, pourquoi ces jeunes femmes parlent aujourd'hui? Évidemment, je ne connais rien de l'affaire PPDA, bien évidemment, sur le fond. Mais on est dans un, comment dire, dans un climat de libération de la parole, d'entraînement d'une certaine manière. Et je réponds à votre question, pourquoi les gens parlent aujourd'hui? Ben parce qu'il y a une forme d'émulation, d'entraînement. Un tel parle, donc moi je parle aussi. Voilà.
Non mais je comprends, mais alors, on ne parle pas de... Pourquoi on s'acharne comme ça sur les gens? Moi, encore une fois, j'ai aucun lien avec les deux personnages. Mais voyez ce que je veux dire, c'est tellement facile. Est-ce qu'on a vérifié l'équilibre psychologique de ces femmes aujourd'hui? Et est-ce qu'il n'y a pas d'autres intérêts à lancer des rumeurs et des choses comme ça des années après? Moi, c'est ça qui on rentre dans un monde où il faut laver plus blanc que blanc. Alors là, il doit y avoir un nombre d'hommes terrorisés, d'hommes qui sont sur la place publique, terrorisés à l'idée que peut-être un jour...
s'ils ont des mauvaises raisons de l'être, moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Je vais vous dire, s'il y a des hommes, comme vous dites, qui balisent ou qui sont terrorisés, moi, ça ne me gêne pas du tout. Hein. Christine, ça veut dire qu'ils ont des reproches à se faire.
Mais oui, mais alors...
Parce que ceux qui ont effectivement eu...
On ne parlait pas de ça il y a 25 ans.
Bah oui, on ne parlait pas de ça.
Il y a même encore 10 ans, Pascal, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais moi, enfin, j'ai du mal à vous suivre. Et on ne parle pas de l'affaire PPDA, là, du tout. Mais il y a des comportements qui existaient dans le monde d'avant, qui sont parfaitement inadmissibles aujourd'hui. Et tant mieux si ces comportements s'arrêtent, Christine. Enfin,
mais
on peut se mettre d'accord là-dessus.
Mais inadmissible à l'époque. Mais pourquoi on fait tous ces déballages aujourd'hui?
Mais parce que, là, je vous réponds comme je vous ai répondu tout à l'heure, parce qu'il y a un changement de société.
Ben oui, mais alors on va dans une société qui est quand même, moi je trouve extrêmement intrusive. Je pense qu'on a tous les moyens de se défendre, hein, y compris les femmes aujourd'hui, d'accord. Je pense qu'on a tous les moyens de se défendre. Ressortir des vieilles affaires comme ça, oui, devant la justice, oui, devant les médias, c'est autre chose.
Christine, ce qui me frappe dans ces discussions, je peux donner votre âge ou pas?
Bon,
vous êtes une femme de 61 ans et ces débats sont générationnels. Vous réagissez, et c'est drôle d'ailleurs, alors que vous êtes une femme vous-même. Une femme de 20 ans ne dirait absolument pas ce que vous venez de dire à l'antenne. C'est très étonnant. Moi, je suis vraiment frappé combien les fractures sont générationnelles. Alors, à force de le dire tous les jours, je vais lasser un peu les auditeurs, mais à chaque fois, je dis ça parce que ça me frappe. Là, on va essayer d'avoir quelqu'un de 20 ou 25 ans et pourquoi pas de vous mettre en conversation avec cette jeune fille. Mais elle ne dirait plus pas ce que vous dites. C'est drôle, d'ailleurs. C'est vraiment drôle. Restez avec nous, Christine.
On a eu des problèmes avec des
mais j'entends bien, mais parfois, les féministes d'aujourd'hui, elles sont parfois plus dures pour Catherine Deneuve, pour Elisabeth Badinter, qui ont fait avancer la cause du féminisme, que pour d'autres personnes. Elles les tiennent même comme responsables, parfois, de ce qui se passe aujourd'hui.
Non,
donc, c'est ça qui m'amuse.
Les féministes d'aujourd'hui, elles ne seraient pas là où elles sont si nos générations ne s'étaient pas battues, Pascal.
Mais sans doute. Mais sans doute, Christine. Mais il n'empêche, je vais vous mettre en relation. Restez avec nous, Christine, parce qu'on va essayer de trouver quelqu'un. Hier, on avait plein d'étudiantes. Avant-hier, on avait plein d'étudiantes. Donc, on va essayer de retrouver des téléphones. Et alors, c'est à la fois les auditeurs ont la parole, mais parfois, on peut en appeler également. Donc, on va essayer de vous mettre en rapport avec une jeune femme. 13h47, un petit traîné avant la pub, monsieur Boris.
Je chante soir et matin, je chante sur mon chemin.
Quelle est la plus belle chanson de traîner?
Je chante, je vais le faire mon château, je chante pour du pain, je chante pour de l'eau.
Il a dit Douce France, Laurent Tessier. Boris, vous avez une chanson préférée de traîner?
Pas vraiment, non.
Pas vrai. Vous en foutez, quoi. En fait,
non, pas du
ça ne vous intéresse pas, traîner. Mais vous êtes le droit, hein, c'est un chanteur d'un ancien monde. Et c'est vrai que reste-t-il de nos amours est peut-être une très très belle chanson, on l'a écoutée tout à l'heure, qui était d'ailleurs la bande originale de Baiser volé de François Truffaut. A tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Ménilmontant, mais oui, madame, c'est là que j'ai laissé mon cœur. C'est là que je viens retrouver mon âme toute.
Ça, c'est bien, ça, c'est formidable. Bruel avait repris ça. Ça, c'est formidable. On écoutera aussi tout à l'heure peut-être des chansons sur Paris par Trenet. Aurore est avec nous. Si vous étiez avant-hier avec nous, vous avez écouté Aurore, elle est étudiante à Sciences Po. Bonjour Aurore.
Bonjour Monsieur Pro.
Je ne pensais pas vous revoir si vite.
Moi non plus, écoutez.
Bah, écoutez, ça me fait plaisir de vous revoir Aurore.
Bah, moi aussi.
Vous avez entendu Christine là, à l'instant qui parlait de Patrick Poivre d'Arvor. Et au-delà d'ailleurs de PPDA, ce qui est intéressant, Christine, elle nous disait mais pourquoi ressortir toutes ces vieilles affaires? Quel intérêt ont ces femmes à parler? On jette des gens en pâture, etc. C'est ça hein, Christine que vous disiez. Christine? Christine, Christine, c'est ça que vous disiez.
Vous m'entendez ?
Oui, je vous entends, Christine.
Voilà, oui, oui, c'est exactement ce que je disais.
Bon, alors Aurore, ça va être intéressant votre dialogue, parce qu'Aurore a 18 ans et vous, Christine, vous êtes d'une génération différente. Je donne la parole à Aurore.
Bonjour Christine, tout d'abord. Alors, c'est vrai que moi, il me semble important, en fait, de prendre en compte la parole des victimes, même après plusieurs années, parce que être victime, c'est d'avoir les conséquences toute sa vie. Et il y a des phénomènes aussi qui touchent certaines personnes lorsqu'elles sont agressées, c'est que leur cerveau se déconnecte. C'est-à-dire que on n'intègre plus et en fait on préfère refouler la douleur et ce sont des flashs qui peuvent revenir au fur et à mesure des années. Et effectivement, de gérer le traumatisme, de le digérer, c'est un processus qui prend du temps. Et
je ne dis pas qu'il ne faut pas parler. Ce que je dis, c'est pourquoi, sur des gens célèbres, on met ces gens en pâture. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter la parole.
Parce que
j'ai un traumatisme, j'ai mis du temps à le digérer, travailler dessus, mais je ne suis pas allée voir tous les journaux en disant « voilà, je me suis fait agresser ».
Oui, mais votre agresseur n'était pas connu, sans doute, Christine.
C'est facile de s'attaquer à des hommes publics, parce qu'il n'y a pas que les hommes publics qui ont fait ce genre de choses. Tous les hommes, toutes sortes d'hommes. Donc, je dis que la parole, il faut qu'elle soit là, je suis d'accord, et je suis la première à dire, ne vous laissez pas faire, il faut parler, il ne faut pas hésiter à parler, mais moi, ce qui me gêne, c'est la mise en pâture de gens des années après, d'accord, et je ne veux pas qu'on vive dans un monde aseptisé, d'accord.
Alors, madame, pour vous répondre, je pense qu'il est important de souligner que ces personnalités représentent, si vous voulez, quelque chose aux yeux des gens. Et en fait, lorsque l'on glorifie certaines personnes, etc., ça doit être très compliqué pour la personne qui en a été victime d'entendre
c'est que ça ne devrait pas être mis en pâture avant qu'il y ait eu des enquêtes et que le résultat des enquêtes soit bouclé.
Alors c'est vrai, Christine, la liaison n'est pas extraordinaire. C'est dommage parce qu'elle n'est pas extraordinaire depuis le départ. Mais bon, on voit bien les deux tendances entre Aurore et Christine.
Ce que je n'apprécie pas, c'est la mise en pâture avant
mais oui,
que
mais
les
quelle est la solution, Christine ? Quelle serait la solution ? Quelle serait la solution ? Au fond, ce que vous dites, parce que...
La solution, c'est que ça ne paraît pas
d'accord.
dans les médias.
D'accord, mais alors c'est vrai, on arrête tous les faits divers. Parce
mais
que, ah si, on arrête
tout
tous les faits, on arrête
tout
de
fait.
Parler de tout, pas simplement les agressions sexuelles. À partir du moment où vous avez un fait divers, où vous avez une personne qui est soupçonnée, mais qui par définition est mise en examen parfois, mais qui par définition est présumée innocent, votre raisonnement, je l'applique absolument à tout, et on ne parle plus d'aucune affaire, ni politique en cours, ni judiciaire en cours, ni financière en cours, ni sexuelle en cours. Pourquoi pas ?
Mais pas logiquement, Pascal, c'est l'histoire de la justice en France. Logiquement, il y a le secret de l'enquête, il y a le secret de l'instruction, voilà. Je veux dire, madame, on est parti dans des dérives ces dernières années, où on a condamné sur la place des publics des gens qui, au bout du compte, étaient blanchis.
Par exemple, l'exemple le plus signifiant de ce que vous dites, c'est Dominique Baudis. Dominique Baudis a été accusé à tort.
Je regardais une émission, justement, sur l'affaire Baudis, il n'y a pas longtemps. Je me dis, cet homme-là, il a été jeté en pâture. Il s'est avéré innocent. On a fait, pendant des semaines, on a parlé de Baudis, on l'a traîné dans la boue pendant des semaines, des mois.
Et notamment le journal Le Monde, disons-le, et c'est important de le dire, et notamment le journal...
Son blanchiment et son innocence a fait la une des journaux et de la presse.
Oui, oui,
des mois,
d'ailleurs.
Madame, pour vous répondre, je pense sincèrement que, effectivement, on ne peut pas juger quelqu'un avant qu'il soit jugé par la justice, bien entendu. Après, de toute façon, soyons honnêtes, si la victime avait été voir les autorités, y est-il lié à un procès ou une mise en examen, etc., sur une personne célèbre, cela aurait été sur la place publique. C'est impossible que cela n'ait pas été sur la place publique. Or,
c'est ça que je reproche justement, c'est que notre justice a fait tomber des remparts qui existaient et qui n'existent
donc
plus.
Vous voudriez donc que ces affaires soient tues et que évidemment il n'y ait pas de débat sur la place publique. Je pense que le débat est sain. Le débat est sain. Il n'y a pas effectivement, on n'a pas à imposer une vérité en disant c'est un tel qui a raison, c'est un tel qui a raison. Mais le fait de mettre ces affaires sur la place publique, cela permet de vraiment confronter les visions et de voir ce qui peut en ressortir de bien. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir la libération de la parole. Alors, je ne suis pas en train de condamner Patrick Poivre d'Arvor. Je ne sais pas s'il est coupable, mais je pense qu'il est important de voir la parole de la victime présumée. Et de voir les effets que ça peut avoir de bien sur la société.
Mais cette discussion-là, elle peut avoir lieu après que les enquêtes aient été bouclées avec poursuite ou bouclées sans poursuite. À ce moment-là, effectivement, on intervient dans les médias, on dit voilà ce qui s'est passé, ça a été jugé, l'enquête a donné ça, et après, mais pas avant.
Madame,
Christine, je vous répète ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'il y a toutes les affaires, le raisonnement.
Mais ça devrait être comme ça, Pascal. La justice était rendue comme ça avant.
Christine, d'abord, la presse a toujours fait son métier. Donc la presse, elle informe, parfois. Elle enquête elle-même. Et elle produit, parfois, il y a même des affaires qui ont été sorties par la presse et la justice s'en est saisie après. C'est aussi le travail des journalistes. Donc le système que vous proposez est compliqué quand même, puisque la presse n'aurait pas le droit de parler des affaires tant que la justice n'est pas passée. Convenez que c'est une position un peu radicale et extrême. En revanche, comme il est 13h57...
Admettons qu'on en parle dans la presse.
Oui.
Ok, admettons. On en parle dans la presse. Mais pourquoi en faire des débats? Il y a un débat aujourd'hui, là, on est en train de débattre.
Mais c'est vous qui nous appelez, Christine.
Ça va passer à la télé pendant au moins 15 jours, voire 3 semaines. Je veux dire, il y a un moment...
Non, mais j'entends ce que vous dites. Alors, on va marquer une pause.
Qui me gêne beaucoup.
J'ai bien compris. On va marquer une...
On va finir par vivre dans une société où... tout à l'heure, vous parliez de... La viande qui est
On en parlera après la pub. Merci Christine. Je vous coupe, si j'ose dire. On en parlera puisque Hortense Crépin est là pour le flash de 14h. Là où Christine a raison, c'est qu'à partir du moment où un nom est lâché comme ça dans la nature, c'est vrai que c'est un préjudice. Quoi qu'il arrive, et l'image de PPDA, quoi qu'il arrive, elle est entachée. Ça, c'est factuel, comme celle de Richard Berry. C'est bien évident. Et c'est ça qui est compliqué sur ces dossiers, surtout si ces hommes-là sont innocents. Et c'est ça le plus grave, comme l'était Dominique Baudis. Il est 13h59. À tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Il est 14h. Le flash avec Hortense Crépin.
La déception des fans de métal malgré les nouvelles règles pour permettre la tenue des festivals cet été. Le Hellfest devrait être annulé une seconde fois. Le ministère de la Culture a fixé hier les règles. 5000 spectateurs maximum, place assise et à bonne distance. 5000 spectateurs assis pour du métal, ce n'est pas possible pour le directeur de l'événement. Nicolas Sarkozy a été vacciné sur prescription médicale. C'est ce qu'indique l'entourage de l'ancien chef de l'État. Jeudi, il annonce dans le journal L'Express de sa vaccination contre le coronavirus virus à 66 ans, alors que les moins de 75 ans ne sont pas concernés, sauf s'ils présentent des pathologies à risque, a suscité des questionnements. Comme tout citoyen, il a droit à une vie privée et au secret médical, ajoute son entourage. La Cour suprême britannique reconnaît le statut de travailleur au chauffeur Uber. Il devrait maintenant avoir droit à un salaire minimum ou à des congés payés. Uber va respecter cette décision et annonce une concertation avec ses chauffeurs. Et puis le prince Harry et son épouse Meghan Markle perdent leurs derniers titres royaux. Et cela Après avoir confirmé leur mise en retrait définitive de la famille royale britannique, la reine leur avait accordé une période de transition d'un an pour revenir ou non sur leur choix. Le palais se dit attristé par cette décision. En football, coup d'envoi ce soir de la 26e journée de Ligue 1 avec la rencontre à 21h entre Brest et Lyon. Rendez-vous dès 20h dans RTL Foot. Et en tennis, on connaît désormais l'affiche de la finale de l'Open d'Australie dimanche. Le numéro 1 mondial Novak Djokovic va affronter Daniil Medvedev. Le Russe a battu ce matin sans difficulté Stefanos Tsitsipas 6-4, 6-2, 7-5. La météo cet après-midi, une large moitié sud sous les éclaircies. Au nord, de la grisaille et des pluies sur la pointe bretonne. Les températures cet après-midi, 9 à Lille, 11 à Brest, 14 à Nice. Les courses étaient à Cagnes-sur-Mer cet après-midi. L'arrivée provisoire, 5 4, 6, 15 et 10. 14h02 sur RTL. Et la suite des auditeurs ont la parole.
À 14h.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Et nous sommes avec Marie-Françoise qui souhaite répondre à Christine.
Oui, bonjour.
Bonjour Marie-Françoise et merci d'être avec nous.
Je vous en prie. Oui, du coup, vos paroles, Christine, m'ont choquée. Parce qu'on vous dit que vous ne comprenez pas pourquoi les femmes attendent 30 ou 35 ans pour en parler, ben, parce que du coup, elles n'attendent pas, c'est qu'elles ont occulté, on va dire. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, donc je sais très bien. Du coup, voilà, c'est revenu suite à une thérapie, mais c'est traumatisant. C'est l'amnésie traumatique, c'est ça. C'est tellement traumatisant que...
Le fond de mon intervention, c'est pas tant sur le fait de, c'est que, par rapport à des hommes publics, subitement, oui. Vous voyez ce que je veux dire. Moi, je comprends qu'on puisse occulter. Je vous dis, occulter un traumatisme, ça, c'est très concevable, et c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Là, ce que je dis, c'est qu'il faudrait peut-être se poser la question et de savoir pourquoi. On met au pilori, comme ça, des gens sans preuve, sans quoi que ce soit.
Oui.
Et 35 ans après.
Oui. Alors après, les hommes publics, etc., je veux bien. Mais oui, voilà, vous dites 35 ans après. Mais oui, mais parce que pendant 35 ans, elles n'ont pas. C'était enfoui, quoi, je veux dire. Donc je pense que si ça ressort maintenant, c'est que pour diverses raisons, suite à un autre traumatisme, suite. Ou comme moi dans mon cas suite à une thérapie, suite à plein de choses quoi, ça revient donc
mais
après
ça,
c'est quoi.
Je le comprends très bien.
Ouais.
Le fond du problème,
elles le font pas volontairement 35 ans après à dire tiens ça fait 35 ans, paf on va, enfin non, moi je pense que c'est vraiment. Alors après oui face à un homme public, je sais pas.
Moi je suis pas certaine
pas
que des femmes qui aujourd'hui avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ressurgir des traumatismes chez elles qu'elles ont subi il y a 15, 20 ans, voire plus.
Non, mais j'ai bien compris, Christine, parce que j'ai bien compris ce que vous vouliez dire. Je vous remercie effectivement d'avoir apporté cet éclairage. Et au-delà de ça, d'ailleurs, ce raisonnement qui est parfois très fréquent, hein, d'ailleurs, sur ces sujets-là. Je remercie également Marie-Françoise qui a pu répondre ainsi à Christine. Et puis, c'est vrai que Aurore, qui incarne une jeune génération, a aussi sur ces sujets-là un avis différent. Alors, on va être maintenant avec Marilyn, peut-être. Bonjour Marilyn, qui nous a contacté par Facebook. Merci d'être avec nous. Avant cela, je dois quand même vous donner une information dramatique, disons-le, puisqu'un responsable d'un centre d'accueil de réfugiés de Pau a été tué au couteau par un Soudanais. Et c'est une information que l'AFP a donnée à 14h01. Et j'apprends que Gérald Darmanin vient de communiquer qu'il ira à Pau dans la journée, le ministre de l'Intérieur. Bien évidemment, si nous avons davantage d'informations sur cette information, je le disais, dramatique, responsable d'un centre d'accueil de réfugiés de Pau tué au coup de couteau par un Soudanais. Évidemment, si on a d'autres précisions, avant 14h30, je vous les donnerai. Marilyn, c'est à vous.
Je vous en prie, Pascal. Écoutez, moi, j'ai 66 ans et je rejoins tout à fait les paroles d'Aurore. Et vous savez, Pascal, ce qui serait intéressant de savoir, c'est que aujourd'hui, on parle bien sûr de tout ce qui se dessine sur le plan public. Mais je pense que dans les commissariats, aujourd'hui, il y a aussi bon nombre de personnes qui vont porter plainte parce que, au travers de tout ça, il faut surtout pas arrêter d'en parler dans les médias parce que dans les maisons, ça bouleverse des familles. Ça retourne. Vous savez, quand on entend une chanson, quand on voit un film, quand on entend une information qui relate ce que soi-même on a vécu, eh ben, ça retourne les tripes et là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On parle, on parle pas. Que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, les deux solutions font mal. Qu'on dise, je parlerai pas parce que je veux pas briser une famille, parce que je veux pas savoir, je veux pas. Ou bien que je dise, je vais en parler, mais de toute façon, ça brisera une famille, ça va briser quelque chose. Vous savez, une personne qui est victime de ça, elle vit avec un carcan. Vous savez, il y a un mot qui s'appelle le coming out. Avant de vous parler, je suis allée voir sur Wikipédia ce que ça voulait dire, coming out. Ça veut dire sortir. Alors, on dit souvent l'homosexualité, un coming out. Mais quelqu'un qui parle, c'est un coming out. C'est aussi puissant, Pascal. C'est aussi puissant. Alors maintenant, vous avez des gens qui ont mis ça, qui ont enfoui ça. Christine, si je peux me permettre, peut-être que vous ne savez pas, mais avec le temps, peut-être qu'un jour, vous allez avoir quelque chose qui va remonter. Je ne vous le souhaite pas parce que j'espère que vous n'avez rien vécu. Mais un jour, ça vient, un jour, on se dit, mais pourquoi est-ce que là, ça ressort et pourquoi j'ai envie de le dire? J'ai envie de le dire surtout quand on voit que la personne qui vous a fait du mal peut être vénérée et insoupçonnable. Que ce soit Béry, que ce soit BDA, etc. Mais qu'on arrête de croire que c'est pour gagner de l'argent ou pour en tirer profit. On ne peut pas en tirer profit. Simplement, on lâche. On lâche quelque chose qui prend la tête, qui est dans nos cauchemars, qui est là dans la haine. Et surtout, ce qu'il faut faire, Aurore, vous avez raison. Moi, j'ai une petite fille, elle a 5 ans, j'ai des petits-enfants. Il faut qu'ils sachent, il faut qu'on leur dise. Parce que nous, moi, pour des gens de ma génération comme ça, moi, 66 ans, eh ben, on m'aurait pas cru, on m'aurait dit tais-toi. Moi, je me souviens avoir dit à mon mari, écoute, je veux pas que le gardien vienne, parce que quand il vient, il est bizarre, il a déjà fait. Vous savez ce qu'il m'a répondu, mon mari? Tu te fais des idées? Non, je me faisais pas des idées.
Je veux pas, c'était alors, le moi, gardien, vous dites?
Oui, oui, moi, mais pourtant j'avais
le gardien.
Le gardien de mon immeuble.
D'accord.
Mais moi, il y a plein de gens qui m'ont fait du mal comme ça. Mais souvent, on me dit, tu te fais.
Mais qu'est-ce qu'il faisait, ce gardien, par exemple, concrètement?
Ah, mais il venait, il toquait à ma porte, et puis il venait, et il trouvait un prétexte pour rentrer, et après, j'étais obligée de me débattre pour le feu d'or, et je
vous
disais le soir à mon mari. Oui, oui, oui.
C'est-à-dire,
oui,
vous débattre, il vous agressait?
Mais bien sûr qu'il m'agressait. Mais Pascal, il y a
pas. Bah oui, mais alors ça là, c'est pas, vous faisiez pas des idées, votre mari. S'il vous agressait, mais physiquement, il vous agressait?
Mais oui, mais Pascal.
Bon, bah oui, mais votre mari, évidemment, celle là, vous faisiez pas d'idées, c'était factuel.
Et je lui disais, mais même mon mari me dit, tu te fais des idées? Non, je me faisais pas des idées.
Bah non, effectivement, si vous agressait physiquement, vous faisiez pas des idées.
Mais tout le monde. Vous savez, Pascal, en 1998, on avait un collègue proche de la retraite qui était au recouvrement. Quand il fallait qu'on aille le voir, on savait qu'il avait. Vous savez ce qu'il nous disait, ce monsieur? Je vous assure que c'est vrai. Il disait, montre-moi tes seins et je te dirai ça. Tout le monde était au courant. Le DRH savait ça, etc. Mmh. Et bien, en 1998, il n'y a personne qui bougeait. Il faut que ça cesse, Pascal. Il faut
alors,
que ça cesse.
Vous avez raison. Mais ce matin, j'étais, dans une rédaction. Et il y avait une dizaine de jeunes femmes. Et elles racontaient, je vous assure, je leur ai dit, il faudrait que vous veniez à l'antenne. Elles racontaient, elles ont donc toutes entre 25 et 40 ans, elles racontaient ce qu'elles ont parfois vécu dans leur relation avec des hommes connus ou pas connus, qu'elles connaissaient ou qu'elles ne connaissaient pas, hein, c'est ce que je veux dire. Et je me disais, en écoutant cela, parce que je leur disais, mais enfin, faut que vous alliez à l'antenne. Et elles souriaient et disaient, mais c'est pas notre quotidien, faut pas exagérer, mais des choses invraisemblables que les femmes subissent. Et je vous assure... Mais... Nous, on ne sait pas, on n'a jamais été dans la peau d'une femme, par définition. Donc, on est quand même surpris de ce que la gente féminine écoute, doit écouter dans sa vie, doit parfois endurer, doit, voir, pourquoi pas. Il y a des choses invraisemblables, des comportements
mais qui,
à l'inverse, n'existent pas. Moi, j'ai eu, comme tout à chacun, une vie amoureuse classique. Bon, j'ai pas vu des choses invraisemblables. Je veux dire, on m'a pas dit des choses invraisemblables. Aucune femme n'a essayé de me taper dessus, etc. Donc, c'est là qu'il y a une spécificité féminine. Et je trouve qu'effectivement, faut écouter ces témoignages qui sont absolument incroyables, Marilyn. Incroyable.
Il faut écouter, pas vous dire autre chose. Il faut que tout le monde sache que des femmes, aujourd'hui, ne parlent pas. Mmh. Elles attendent. Vous savez, je ne peux pas tout vous dire, mais aujourd'hui, on peut
vous pouvez tout nous dire, d'ailleurs. Mais simplement, votre mari était curieux, si vous me permettez. Votre mari, si vous lui dites « tu te fais des idées », alors que le gardien, il arrive, il toque à la porte, il vous agresse, il vous touche, etc. Et s'il vous dit « tu te fais des idées », je trouve curieux, votre mari, mais bon.
Mais oui, mais il y a 20 ans, il y a 20 ans. Et puis,
il est où le mari aujourd'hui, Marilyn ?
Mais c'est encore ça.
Oui. Il est où le mari aujourd'hui, Marilyn ?
Ben, il est toujours là, le mari. Hier, on en a discuté.
Ah
hier,
bon
on en a discuté.
Et alors, il est comment, le mari ?
Mais oui, parce que il dit oui, effectivement. Il est tout bête, mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, il a changé, mon mari, avec l'âge, parce que on a des petits enfants et parce que la parole elle s'ouvre et puis parce qu'on en parle. Il faut arrêter. Il faut arrêter.
Ben, passionnant, en tout cas, de vous écouter, Marilyn.
Pascal, parce qu'il faut que vous en parliez, parce que quand vous en parlez à l'antenne, dites-vous bien que ça relève des discussions dans les appartements, dans les maisons, dans les familles, et c'est pour ça, c'est grâce à vous qu'on arrive à en parler. Et dites-vous bien qu'aujourd'hui, on parle de TPDA, mais dans les commissariats, je vais me renseigner et je vous donnerai les informations pour savoir l'évolution des plaintes qui se font là depuis 3-4 mois. Je suis sûre qu'elles explosent.
Merci Marilyn de ce témoignage. Il ne s'agit pas évidemment de... personne ne sait rien. Comme tout à chacun, PPDA doit bénéficier de la présomption d'innocence. Et c'est pourquoi j'ai essayé d'élargir, de ne pas parler précisément de cette situation dont on ne sait rien, sinon un témoignage d'une jeune femme qui l'accuse de l'avoir violée. PPDA qui ne s'est pas encore exprimé, sauf sous la forme du communiqué que j'ai lu tout à l'heure. On va marquer une pause peut-être, on parlera de Charles Trenet, je crois qu'on a terminé, je pense, sur ce secteur et puis sur ce chapitre et puis on parlera peut-être de l'autoconfinement.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Avant d'évoquer Charles Trenet, ça va être un de nos derniers thèmes du jour. Est-ce que les personnes âgées fragiles doivent-elles s'auto-isoler ? Nous sommes avec Julie. Bonjour Julie.
Bonjour,
et merci
Pascal.
D'être avec nous.
Bonjour.
C'est les membres du conseil scientifique qui sont favorables à un contrat social entre générations. Qu'en pensez-vous ?
Alors le contrat social, il existe déjà de toute façon, parce que déjà des personnes âgées s'autoconfinent déjà en ne voyant pas leurs enfants, leurs petits-enfants. Hein, on voit Noël, les 6 personnes qui étaient quand même préconisées. Donc en fait, je pense que de s'autoconfiner, ça ne servirait pas grand-chose, dans la mesure où qui est-ce qui les confine, ces personnes qui les contaminent, c'est quand même le public quand même qui, quand elles vont faire leurs courses, techniquement comment ça va être possible qu'elles se confinent déjà dans les hôpitaux. Il faut savoir qu'elles ne voient pas qu'elles sont victimes un petit peu de cette crise, elles sont isolées, elles ne peuvent pas voir leurs proches. Et ensuite, c'est un petit peu ce qui se passe avec les jeunes qui sont isolés, ça a quand même des conséquences psychologiques. Donc se confiner, je vois pas comment ça peut être jouable, ça, déjà.
Ah, d'abord, c'est pas un autoconfinement à 100%, c'est-à-dire que c'est... j'imagine le minimum, c'est-à-dire que les personnes âgées sortent pour faire leurs courses, sortent également peut-être pour faire un tour dans leur rue ou dans leur que sais-je dans leur entourage, mais rencontrent le moins de personnes. C'est ça ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tu peux peut-être aller au parc, tu peux peut-être aller au jardin, mais tu rencontres personne, tu évites toutes les interactions. C'est comme ça que je l'entends.
Oui, bah ça, je pense que c'est ce qu'elles font.
Et c'est ce qu'elles font déjà, sans
c'est
doute.
C'est ce qu'elles font déjà. Non. Mais de dire, bah, ça suffira, et puis hop, on vit comme avant, c'est pas possible. Ça va rien résoudre. Et puis, je veux dire, c'est un peu stigmatisé aussi ces personnes-là. À ce moment-là, toutes les personnes qui ont des comorbidités, du diabète, qui sont obèses, ont fait la même chose. Je veux dire, ça va faire du monde à confiner,
Bah, en tout cas, j'ai le sentiment que c'est très compliqué à mettre en place d'une manière concrète, Julie. Merci beaucoup en tout cas de ce témoignage.
C'est aux autres à faire attention aux personnes âgées et puis
Ah bah souvent on les voit pas hein, ce qui se passe dans les familles.
Qui est-ce qui contamine les personnes âgées, c'est pas
Bah, on va pas les voir parfois. Parfois on va pas les voir, il y a des familles où on se voit plus.
On se voit plus, ben c'est ce qui s'est passé pour Noël. À
Bien
Noël,
sûr.
Il y avait 6 personnes. Donc ces personnes-là, elles sont victimes et puis psychologiquement, vous vous rendez compte que ce que ça impacte pour
oui,
elles.
Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, on s'en rend compte.
Ça résoudra rien.
Ça les protège peut-être quand même.
Non, mais je veux dire par là, c'est que la population en général va dire bah voilà, elles sont confinées, ce qui s'est passé en Suède. Et puis, du coup, les gestes barrières risquent de diminuer, etc. On va dire bah voilà, elles ont qu'à se confiner, il n'y a qu'à.
Ben merci Julie. On va terminer cette émission peut-être plus joyeusement, en tout cas, que nous l'avons fait avec les thèmes que nous avons abordés, puisque nous allons parler de Charles Trenet.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Alors, on est avec Pierre, qui habite Grenoble, dans l'Isère. Bonjour, Pierre.
Oui, bonjour, monsieur Pro.
Vous allez bien.
C'est un plaisir de vous entendre depuis le temps que je vous appelle et que je ne suis jamais retenu. Alors, merci, Charles Trenet.
Mais pourquoi vous n'étiez jamais retenu, Pierre?
Je ne sais pas. J'appelle et bon,
Ils n'aiment pas les vieux.
Il doit y avoir trop de monde. Bon,
ils n'aiment pas les seniors, ils n'aiment pas les j'ai dit les vieux, pardonnez-moi.
Merci. Hein, si, vous avez raison.
C'était pour vous taquiner, parce
non,
que vous
non,
êtes,
vous avez
on est vieux dans sa
raison.
Tête.
Je sais que je suis vieux et j'aurais même jamais espéré arriver à cet âge-là.
C'est vrai?
Ah oui, j'ai 81 ans.
Bah, 81 ans, vous êtes... oui,
mais
vous
non,
êtes...
je sais, c'est pas vieux. Enfin si, ça dépasse quand même, ça dépasse la moyenne d'espérance de vie des hommes.
Hein, bon.
Qui est à 80.
Bon. Vous avez envie de chanter?
Ah, Charles Trenet, vous parlez.
Alors
simplement, c'est que je suis obligé de faire un peu d'accompagnement parce que j'ai personne pour m'accompagner. Alors la mère, bien sûr, la mère. Vous avez raison, Douce France. C'est ça que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit être la meilleure chanson.
Bah moi j'aime bien, mais vous avez envie de chanter la mère vous-même?
Oui, voilà.
Bon, alors chantez là.
Je me lance. La mère qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer au ciel d'été confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie, voyez près des étangs ces grands roseaux mouillés. Voyez ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et de nos chansons d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La 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 la, etc.
Monsieur, attendez, alors là, franchement, toute la régie applaudit. Bravo. On a des applaudissements, Boris. Non, mais vous êtes formidable. D'abord, votre voix, elle est impeccable. Mais vous avez chanté dans votre vie?
Je chante tous les jours.
Mais vous avez chanté dans un orchestre, parfois une chorale?
Non,
ou...
hélas. Mais là, j'ai un ami qui a un restaurant aux environs de Grenoble. Et bon, bah, bien sûr, quand il était ouvert. Et chaque fois que j'allais manger chez lui, avec sa terrasse remplie, il voulait que je chante.
Eh oui, mais vous savez, les gens qui aiment chanter, parce que vous avez du plaisir à chanter, s'ils n'ont pas réussi à chanter dans leur vie, c'est un manque. Et il y a toujours un moment où ils deviendront champions de karaoké ou champions de quelque chose. Mais non, parce que c'est un truc. Et là, on voit le plaisir que vous avez, Pierre.
Ah oui.
Ah ouais. Non, vous faisiez quoi dans la vie avant d'être
en retraite? Moi, j'étais imprimeur.
Ah oui, donc ça n'a rien
enfin,
à voir.
J'ai commencé typographe. Hein.
Ouais.
Typographe, c'est-à-dire à l'époque où on nous dit que c'était formidable, si et ça, oui. Bien sûr, nous avions du travail, mais si vous saviez ce qu'on a été exploité, je parle des années 50-60, eh bien, il fallait 4 ans pour apprendre son métier de typographe, et après, il fallait encore une année de perfectionnement pour être payé au tarif du typo professionnel.
Je suis d'accord avec vous, mais là, ça a peu de rapport avec Trainer. En revanche, il y a votre accent de l'Isère qu'on revoit de temps en temps. Vous avez l'accent de Lyon aussi qu'on entend.
Hein? Non, dites-moi de Grenoble, pas de Lyon.
Ouais, de Grenoble, mais on le sent. Bon,
et oui, avec les Hans.
Oui, ben, vous avez parlé, voilà. Bon, en tout cas, vous êtes formidable. Trainer, c'est le père de la variété, me dit Fabien Lecoeuvre en France.
Oui.
Dès 37, on chantait Il y a de la joie, en tapant sur les notes.
Il y a de la joie.
Oui.
Bonjour les hirondelles, il y a de la joie. Vous voyez
je vais fermer l'antenne.
Ah non, mais vous ne m'arrêtez plus là.
Ah ben, j'ai bien compris l'affaire.
Bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir
c'est nous qui vous remercions.
De chanter. Vous voyez, j'ai 81 ans et je vous signale que je suis tout seul avec mon épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis 7 ans et je continue à avoir le moral.
Bon, moi ce que je vous propose, Pierre, c'est que maintenant vous nous appeliez et qu'on puisse vous prendre régulièrement, parce que c'est bien d'avoir des gens qui ont le moral.
Écoutez, moi, je veux bien vous appeler, mais
je veux bien vous appeler. Vous voyez, ça, c'est l'accent de Grenoble. Là.
Oui, hein, vous avez
j'adore
raison.
Cet accent. Hein.
Non, mais
c'est l'accent des Méjaquets.
Non, mais oui. Ah, ben, lui, il était stéphanois.
Oui.
Mais enfin, c'est
de
toujours
ça, la même raison.
En tout cas, non, mais appelez-moi vous. Parce que moi, si je vous appelle que je ne suis pas sélectionné,
on va vous appeler.
Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer.
Je n'ai plus que mes yeux pour pleurer. Vous voyez l'accent. L'accent, les gars. Mais Jacques, attention. Robert,
si
c'est pas Zizou.
Si vous saviez ce que je suis content d'avoir l'accent de Grenoble et que les gens le reconnaissent. Parce que je suis grenoblois de naissance.
Bon, on vous embrasse, Pierre, la pub, le débrief.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission. Par Laurent Tessier.
La mairie écologiste de Lyon va imposer un menu unique sans viande dans les cantines scolaires de la ville au nom de la lutte contre la Covid-19. C'était le débat du jour.
Je préfère manger à la cantine.
Je pense que c'est l'occasion de montrer aux enfants qu'on peut très bien manger. Ça sert à un repas très agréable sans manger de viande.
Une cantine, c'est aussi un endroit où les enfants peuvent avoir des repas qui sont équilibrés. Certains, c'est leur seul repas équilibré de la semaine. Donc, je vois pas pourquoi on doit imposer, justement, cette espèce de dogmatisme du sans-viande.
Bon, dans toute cette histoire, la meilleure morale vient de vous, Pascal.
Je me demande si la mairie de Lyon ne nous prend pas pour des jambons.
Oh, très bonne punchline. Et puis, il y a 20 ans, le 19 février 2001, Charles Trenet nous quittait.
Douce France, cher pays de mon enfant.
Allez, vraiment au hasard, interrogeons Boris qui remplace notre réalisateur Greg Caranoni.
Je salue Boris Pirinou qui est à la réalisation. Je ne sais pas s'il aime Charles Trenet. Bonjour Boris.
Ah, il reste sans voix. Mais où es-tu Boris? Reposons-lui la question quelques minutes plus tard.
Boris, vous avez une chanson préférée de Trenet?
Pas vraiment, non.
Pas vrai. Vous en foutez quoi.
Et dans les auditeurs à la parole, nous apprenons aussi de nouveaux mots.
Sur Twitter, il y a un garçon qui s'appelle DJ Nital. Visiblement, il est en route avec sa maman. Il dit Madarone, qui veut absolument écouter l'émission de Pascal Pro à la radio. Il reste 4 heures de route, je vais probablement sauter.
Courage à toi DJ, c'est vendredi, c'est l'heure de faire un point sur la semaine de Pascal et Flavie. Au programme, de petites approches sensuelles.
Madame Flamand est donc là et c'est lundi.
Appelez-moi mademoiselle.
Mademoiselle, je suis content.
Eh oui, mademoiselle, des petits surnoms aussi, tout mignon.
C'est mon petit chevreuil à moi.
Oh, mon petit chevreuil, Pascal. Des imitations aussi pour se rapprocher de l'autre.
La différence d'âge en amitié.
En amitié.
C'est comme si on était potes, vous et moi.
Ah, bah, alors, mon petit cash, tu as... Hein? Ça me fait plaisir de te voir.
Hein? On est en direct jusqu'à 15h30.
Je n'entends pas.
On a aussi eu de la mauvaise foi.
Que vous me donnez l'antenne toujours avec une minute de retard.
Ah, c'est faux. Alors ça, c'est pas vrai.
Ça, ça y est, tout de suite.
Ah, c'est faux, dit Greg Caradoni. Vous avez été trop loin dès le lendemain.
un poil en retard et je lui prie de nous excuser, mais nous avions une intrusion dans notre studio.
Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. On se quitte avec le petit message de Fabienne.
Big bisous à tout le monde.
Sur la main.
Ah non, 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 terminons plutôt avec Pierre.
Noble et tout.
On va terminer avec Pierre.
Les abercés le long des golfes clairs et de nos chansons d'amour la mer.
Quelle voix de Pierre. Bravo à lui.
Formidable Pierre. Flavie dans une seconde.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL.